L'amour du Brésil est d'abord venu par l'amour de la langue. En fait, moi, j'aime la langue brésilienne, le portugais, depuis le départ.
Pour moi, aujourd'hui, c'est plus le contact humain, apprendre la culture de l'autre et aussi partager ma culture.
C'est un petit peu ce que disait Fred. Pour moi, c'est surtout le partage et ça a un peu toujours été ça. Parce que j'associe voyage en général avec tout ce qui connecte avec la culture du pays. Et la bouffe en fait partie.
Ce truc-là, je n'ai jamais mangé ça. Et j'aimerais le regoûter encore.
Un moqueca. Un moqueca daqui moqueca.
La viande, alors encore une fois, hein, ça
c'est rend... un ancien temps pour toi.
Un ancien temps. La meilleure viande que j'ai mangée de ma vie, hein, c'était chez moi, à São Paulo. C'était tellement bon, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as mis dedans? Il me dit du sel.
One more time again. Je suis Gérald Joseph Alexandre, digital nomade et grand passionné de tout. Co-fondateur de Platypus Agency, agence web spécialisée en e-commerce basée en Martinique, à Paris et en Colombie. Adiosa. Et un podcast qui me ressemble, 99% avis tranché, dans lequel nous aborderons des sujets digitaux, e-commerce, de voyage ou de food. Au travers d'interviews de talk débats, les invités de tous horizons échangeront autour de leur parcours, de leur histoire, partageront leur expérience, donneront leur avis tranché sur les sujets abordés. Adiosa. Se veut ouvert, inspirant, factuel et souhaite donner l'envie à ceux qui l'écouteront eux aussi d'affirmer ce qui les fait vibrer. Ou pas. Hello, bonjour à tous. C'est parti pour le lancement du format Taste It. Ce format est dédié avant tout aux passionnés de voyage et de food. Pour les gourmands qui aiment se faire plaisir et découvrir des mets et saveurs d'ailleurs. Comme on peut l'entendre, aujourd'hui, nous partons au Brésil avec Fanny, François de Christophe et Frédéric Fardin, deux grandes voyageuses, deux gourmandes, deux passionnées du Brésil qui partageront avec nous leur rapport au Brésil et leur périple. Bonjour Fanny, bonjour Frédéric.
Bonjour Gégé.
Bonjour Gégé.
Alors, comme vous le voyez, on est dans le non-formalisme, c'est Gégé, Fred et Fanny, on est entre nous et c'est ce qui est bien. Alors, les filles, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu, Fanny?
Ben, moi, je suis une professionnelle des ressources humaines, hein, du point de vue pro, c'est ça, et du point de vue perso, carrément passionnée de Brésil, de voyage et de bouffe, comme beaucoup de gens. Mais le Brésil, c'est quelque chose de spécial.
Et toi, Frédéric?
Et moi, c'est Fred. Ben, je suis environnementaliste, passionnée de voyage, bien que ces dernières années, j'ai voyagé un petit peu moins, peut-être.
À cause de quoi?
Et du coup, à côté de ça, je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle Roots of the Sea, qui a pour objet de protéger et promouvoir le patrimoine naturel et culturel de la Martinique.
Super, ça. Alors, Fred, dis-moi, qu'est-ce que représente le fait de voyager pour toi, en général?
C'est vrai qu'avant, c'était plutôt voir des paysages. Je regardais toujours, je faisais une petite recherche sur Internet pour, en me demandant qu'est-ce que je vais bien pouvoir découvrir visuellement. Et ça a changé au fil du temps. Et pour moi, aujourd'hui, c'est plus le contact humain, apprendre la culture de l'autre et aussi partager ma culture.
Ok. Toi, Fanny?
C'est un petit peu ce que disait Fred. Pour moi, c'est surtout le partage et ça a un peu toujours été ça. Parce que j'associe voyage en général avec tout ce qui connecte avec la culture du pays. Et la bouffe en fait partie, selon moi, partie intégrante. Donc, voyager, c'est liberté, partage, échange, connaître l'autre, sa culture dans sa globalité.
Et justement, que représente le fait de manger pour toi, en fait? C'est quoi manger?
Bah, manger, c'est une manière de commencer à partager un peu de sa culture. Moi, je me suis rendu compte, justement, à travers les échanges sur, juste autour d'une table, autour d'un bon repas. Déjà, c'est beaucoup plus sympathique, certainement, que ce délit, et voilà, on se sent bien. Mais au-delà de ça, ça nous rapproche. Moi, je vivais en colocation avec un Nigérian, qui est aujourd'hui un très, très bon ami à moi. Et,
c'était dans quel pays, ça?
Ça, c'était en Angleterre, quand j'allais en Angleterre. Et c'était très marrant parce que quand je cuisinais ou quand ils cuisinaient, ils disaient, mais attends, moi aussi, j'ai ça. On prépare un petit peu différemment.
Les
épices, ou des choses, des fois, que, voilà, en métropole, on va trouver un peu bizarre. Je me souviens que j'étais en stage à un moment donné. Ça fait longtemps, hein, mais je me cachais presque pour manger mon... comment on appelle ça? Mes queues de cochon. Hein, parce que, bon, ça le fait pas. Hein, on est... je sais pas, moi, vous êtes autour de personnes qui, en général, mangent peut-être leurs petites pommes de terre avec leur petit poulet, je sais pas. Voilà. Et moi, voilà, je préparais des gros repas et que j'amenais de toute façon entre midi et deux à l'époque. Et voilà.
Mais du coup, c'est une façon de partager avec tes collègues de l'époque, en fait, ta culture.
Ben, en complètement. C'était, en fait, d'ailleurs, la cuisine, c'était notre point de réunion parce qu'on n'avait pas forcément... si vous connaissez un peu l'Angleterre, on a des apparts qui ne sont pas forcément très grands où on partage le peu d'espace qu'on a. Et nous, notre espace de communion ou de réunion, c'était la cuisine. Et en général, effectivement, lui et moi... on préparait souvent des choses de chez nous pour les autres colocs. On partageait comme ça.
Alors, et le Brésil, alors, à quel moment tu as eu un tilt, on va dire un focus sur le Brésil, et qu'est-ce que représentait pour toi le fait de faire un voyage au Brésil?
Alors, presque depuis toujours, parce que l'amour du Brésil est d'abord venu par l'amour de la langue. En fait, j'aime la langue brésilienne, le portugais, depuis le départ. Sauf que bon, je ne me suis pas focalisée sur le portugais parce que professionnellement parlant, ce n'était pas une priorité. Néanmoins, j'avais en tête, à un moment donné, de vivre au Brésil. Et finalement, je me suis créée cette opportunité. D'abord, mon compagnon, on a voyagé au Brésil en 2016. C'était pour mes 30 ans. J'étais bien contente. Voilà, c'était mon petit cadeau d'anniversaire. Et j'ai découvert la zone du Brésil que j'aimais. Salvador, donc ce qui m'attirait. Et puis on s'est dit, à ce moment-là, on se regardait, on s'est dit, mais on va revenir.
C'est pas mal.
On va revenir, on s'est dit, c'est pas mal, et surtout, on va revenir, on va y vivre. Et on a mis tout en place pour y vivre 2 ans après, et voilà, les choses se sont passées.
Et toi, Fred, ton premier contact avec le Brésil, c'était quand?
Mon premier contact avec le Brésil, c'était en 2008. Non, je dis des bêtises, c'était en 2005. Voilà.
T'avais quel âge à l'époque?
Est-ce que j'ai un âge particulier? Mais j'étais au lycée. J'étais au lycée et ma mère m'a emmenée au Brésil, donc pendant les grandes vacances. On est parti 10 jours et c'était génial parce qu'en fait on a parcouru en peu de temps une grande partie du Brésil, en tout cas des sites remarquables, donc les fosses d'Iguaçu, les chutes d'Iguaçu au sud, avec à la frontière avec l'Argentine d'un côté et le Paraguay, je crois. Voilà, et puis il y avait aussi j'ai pu voir Salvador, donc là tout de suite effectivement j'ai eu sur les différentes villes que j'ai vues la première fois, donc il y avait Iguaçu, Fortaleza, Rio, Belém et Salvador, et en fait Salvador, coup de foudre aussi.
Je crois qu'il y a eu un match là en fait.
Ouais, et ça c'était en 2008, ça c'était en 2005 du coup, voilà, et en 2008 j'y suis retournée seule. C'était mon premier voyage en solo, et donc j'étais jeune étudiante, hein. C'était mon premier voyage en solo. J'étais passée par le Venezuela. À l'époque, il y avait encore des lignes Martinique-Venezuela, Venezuela-Brésil. Et j'avais fait... en tout, je devais faire 3 semaines. 2 semaines à Salvador et 1 semaine à Rio pour apprendre le portugais. Et finalement, j'ai fait 2 semaines à Salvador. Je suis partie à Rio. Je suis repartie tout de suite à Salvador. J'ai pas fait ma dernière semaine à Rio, j'ai pas du tout aimé. En plus, voilà, j'ai pas du tout aimé à cette époque-là, hein, par rapport à ce que je cherchais. Et puis aux relations que j'avais établies juste en 2 semaines à Salvador, du coup, je me suis dit...
Mais qu'est-ce que t'as aimé d'ailleurs? Qu'est-ce que t'as aimé à Salvador, toi?
Cette facilité de vivre, en fait, cette joie de vivre aussi, en fait, avec les personnes qui m'hébergeaient. Donc c'était deux femmes. Expérimenta. Alors, je vais pas dire ce que... voilà, les paroles de cette chanson, c'est compliqué, mais... assez tendancieuse, on va dire. Donc,
il me semble que celle-ci, elle était interdite à un moment donné.
Je pense, ouais, parce que... Et en fait, donc j'ai... c'était un voyage linguistique, hein, ces 3 semaines au Brésil en 2008, où j'apprenais le portugais, donc intensivement pendant 3 semaines. Et j'ai appris avec cette chanson. Voilà. Donc...
Alors, dis-nous un petit peu quand même ce qu'elle raconte, parce que si tu as appris le portugais avec elle, au moins quelques mots, peut-être choisis.
Choisis, ouais.
C'est-à-dire que voilà, c'est une conversation entre un homme et une femme. Je vais pas aller plus loin en fait. Hein. Mais c'est voilà, c'est un peu tendancieux et puis surtout, ce qui est assez frappant, c'est que finalement, j'apprenne le portugais avec cette chanson, entre autres, hein, bien sûr, et que je repense. Et puis, en 2014, je reviens au Brésil pour mon stage de Master 2. Et là, je chante cette chanson. À ce moment-là, j'habitais à São Paulo pendant 6 mois. Et je chante cette chanson pour ma coloc à São Paulo. Et elle me dit, mais ça va pas ou quoi, enfin... et moi, pourquoi ça me choquait pas? Parce qu'effectivement, bon, comme je l'ai dit, c'est tendancieux, voilà. Sauf que ça me rappelle quand même des chansons de carnaval en Martinique. Donc... Je suis pas choquée, quoi. Voilà.
Et donc, redis à l'exercice.
Quoi. Et donc là, j'arrive à São Paulo et je dis ça à mes colocs et elles sont choquées. Ouais.
Mais est-ce qu'à São Paulo, du coup, il y a une différence de culture potentiellement avec là où d'où cette musique vient? Je sais pas d'où elle vient au Brésil.
Elle
potentiellement.
Vient de Salvador.
Salvador, voilà, c'est ça. Donc il y a peut-être une différence de culture finalement entre São Paulo aussi et Salvador.
Bah, c'est-à-dire que on va dire que il y a une part de la culture brésilienne qui va être plus en avant à Salvador, alors qu'à São Paulo, elle va exister, mais peut-être voilà, dans une diversité d'autres cultures, finalement, à Salvador, où à Salvador, il y a beaucoup de rock, par exemple. Parce que mes colocs et pas mal de personnes dans mon laboratoire quand j'étais à Salvador, à São Paulo, c'est un peu dur de se retrouver, mais aimaient beaucoup le rock, aimaient peut-être moins... le carnaval, etc.
Moi, je ne saurais pas dire, parce que c'est vrai que moi je connais finalement que Salvador. Et puis, mais je pense que quand même, t'as un peu raison, parce que le type de population est déjà différent. Mm-hmm. On est sur un Brésil un peu plus européanisé sur São Paulo. Et finalement, quand on va à Salvador, on a l'impression qu'on est plus au cœur des racines même de ce qu'est le Brésil. C'est le Brésil un peu noir. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est la partie nord-est où finalement, il y a encore un peu plus de difficultés que dans des grandes capitales ou dans des grandes villes plutôt, comme São Paulo ou Rio. Voilà, les villes qu'on connaît où les gens vont. Et je pense que, en fait, les références des personnes de ces populations-là sont un peu plus effectivement proches des références européennes, donc le rock peut-être.
Ouais, il y avait beaucoup d'immigration
italienne
et allemande, non? Mm-hmm. Finalement à São Paulo dans les collègues que j'avais. Après, effectivement, on n'est pas dans le rejet non plus de ce type de musique, mais c'est-à-dire que ça peut mettre mal à l'aise. Et puis de mon côté, je vivais avec une personne qui vient de l'état de Espírito Santo.
Voilà. Espírito Santo.
Elle est donc capixaba, c'est comme ça qu'on dit.
C'est quoi une capixaba?
Ah bah c'est quelqu'un qui vient de Espírito Santo.
D'accord, ok.
Ah, je savais même pas qu'on l'a.
Ouais, c'est comme ça. Parce qu'il y a, oui. Si on parle d'alimentation, de bouffe plus tard, je te dis pourquoi. Mais c'est vrai que. Et elle était assez ouverte. Et c'est sûr que les origines comptent beaucoup. Voilà. Sur le type de musique, finalement, que les gens vont écouter. Après, à São Paulo, moi, j'aimais beaucoup tous les bars à samba qu'il y avait. Donc, le vendredi soir, il y avait pas mal de... On pouvait pas mal bouger dans les bars à samba. Mais ça reste quelque chose... Voilà, c'est un bar à samba, on y va le vendredi, on y va... Mais c'est pas aussi, je trouve, démocratisé qu'à Salvador. Mais ça, c'est mon point de vue.
Ok. Et quelle idée préconçue tu avais sur le Brésil, au départ, qui a volé en éclats quand tu es arrivé?
Je pense que sur le Brésil en général, pas vraiment, parce que l'idée préconçue que j'avais du Brésil, qui était, voilà, c'est un pays, le pays du carnaval, le pays de l'amour. Alors bon, comme j'adore le portugais, moi dès que j'entendais quelque part les portugais, j'étais là, ah non, mais je suis amoureuse, ça y est. Donc ça c'était au début, hein, et c'est vrai que c'était mon premier voyage en solo, donc j'avais 20 ans. Et après j'y retourne, donc j'y retourne en 2014, je pense que j'avais 24-25. Et là en fait, je découvre São Paulo qui n'a rien à voir avec Salvador et qui n'a rien à voir avec justement cette idée préconçue qui était que voilà. Je pensais seulement capoeira, samba, carnaval. Et puis, mais j'aimais la culture, hein, et puis j'aimais les personnes, j'aimais les gens, j'aimais la population. Donc, mais ça a quand même pas mal volé en éclats parce que Salvador, ça reste une métropole et c'est très, finalement, en mode européen, c'est cette ville.
Fanny, toi, depuis ton enfance, tu es arrivée du Brésil. Quand tu es arrivée au Brésil, qu'est-ce qui t'a marqué? Ça, c'était pas vraiment comme je l'avais imaginé. C'était soit mieux, soit c'était peut-être un peu moins bien pour le coup.
Je me demande, parce que finalement, on est retourné dans l'endroit exactement où on avait été. On l'avait expérimenté pour les vacances. Et je crois que j'ai pas vraiment été déçue. Je pense que ce qui était plus dur que j'avais imaginé, peut-être plus facile à appréhender parce que je le savais, c'est ces différences entre les populations. C'est-à-dire vraiment, nous, quand on va là-bas en tant qu'Européens, parce que bon, même si on est caribéen, tout ce que vous voulez, on est Européens, on est quand même, on a une vie assez facile, en fait, là-bas. On vit la vie du... pas du Brésilien moyen du tout. On vit plutôt la vie des personnes aisées. Et en fait... Alors, c'est vrai que j'ai adoré vivre là-bas parce que, bon, bah, toi, tu es venue, donc tu sais, j'étais quand même dans un endroit très, très confortable. J'étais très, très bien. Mais ce qui était gênant, en fait, c'est que bah, je suis quand même, voilà, hein, je suis quand même caribéenne, je suis noire. Et donc, de voir quand même à Salvador des populations noires, qui sont quand même une population importante dans cette zone du Brésil, de voir qu'en général, elles sont cantonnées à... certains endroits où, par exemple, nous, je me souviens que quand on allait au restaurant, c'était des restaurants qui, pour nous, nous paraissaient normaux, mais on se rendait compte que, en fait, autour de nous, on regardait, mais ouais. Qu'est-ce qu'on trouve ? En fait, que des blancs brésiliens, on était les seuls un peu couleur wayayay, quoi. Et on se dit, bah, c'est là, ils savent que nous, on n'est pas brésiliens, même si finalement, on passe bien, on a la bonne tête, voilà, surtout là-bas. Mais voilà, et je pense que c'est ça, en fait, c'est ce petit choc-là. Et puis, je me souviens aussi quand je rentrais chez moi et que, bon, finalement, on était un peu dans une cage dorée. Alors, j'arrive, on a un portier, première chose. Et il y avait beaucoup de différences. Et bon, je suis jeune, c'était Dona Fanny, des choses comme ça. Où, voilà, c'était un peu bizarre,
ça
en fait. Madame ou Mademoiselle Fanny, voilà, c'est juste, on a l'impression d'être une grande dame spéciale et finalement, bon, non en fait.
Surtout que nous, enfin, en Caribéen dans notre éducation et dans on a vécu, on est assez simple en fait. On n'a pas l'habitude en fait de porter forcément comme ça en estal en fait au final.
Non, bon, je ne sais pas si c'était vraiment. C'est juste une marque de respect. C'est des gens qui travaillent et quand ils travaillent dans tous les gens de l'endroit où l'on vivait finalement, ils leur parlaient comme ça. Mais c'est juste que ça fait bizarre parce qu'on n'a pas ces habitudes-là chez nous en France, en fait. Donc ça, c'était le petit choc. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu des images aussi du Brésil dernièrement, des images. Fortaleza, où on voit des gens fouiller dans les poubelles, dans le camion qui ramasse les poubelles. Ça, en fait, finalement, ben, on peut retrouver ça aussi à Salvador. Donc, je pense que ce qui m'a choqué, en fait, c'est que même si je m'attendais à avoir de la pauvreté côtoyée de la richesse énorme, en fait, quand on y est, on ne sait pas comment on va réagir. C'est un petit peu choquant. Voir les populations noires aussi, être parquées, voilà, qui nous ressemblent beaucoup, être cantonnées plus ou moins à un rôle et ne pas, finalement, naturellement avoir accès à certains endroits, après, sans victimisation aucune. C'est juste que on dit que la société est classiste, que, qu'il y a une société de classe qui est très forte. Et c'est vrai que ça, finalement, je l'ai vu au quotidien. Et puis aussi les policiers armés, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais quand tu es dans la rue, en tout cas à Salvador, de voir finalement la police militaire avec son gueule à côté de toi, tu te dis, mais il y a quelque chose qui se passe. En fait, non, ils font leur ronde naturellement. Et c'est là que tu te rends compte quand même que la sécurité est un enjeu. Donc ça c'est une chose. Et puis parce que j'ai vu de mes yeux, je les ai vus arrêter une personne. Alors oui, il avait volé, mais c'est avec très peu de dignité. Hein. Et puis même des fois, vous dépassez un feu rouge. La manière dont on vous arrête en plein milieu de la circulation, on vous fait un peu honte. Ça en fait, c'est des situations un peu gênantes. Voilà.
Ok. Alors. Parlons du coup un petit peu bouffe, comme vous avez déjà envie.
Tu voulais
rebondir. Tu veux rebondir, c'est ça?
Ouais, non, mais vas-y. C'est parce que moi, j'ai pas du tout eu la même expérience que Fanny, parce que j'ai pas... Enfin, voilà, quand j'ai voyagé pour la première fois au Brésil, quand j'avais 20 ans, bah, tout de suite, j'ai fréquenté des favelas. J'ai été... Bon, j'avais peut-être pas toute ma tête, mais enfin bon. Et du coup, à l'époque. Et du coup, la pauvreté, et puis se contenter de voir un peu de quoi se contentent les gens, et puis comment on peut être heureux. Parce que moi, je me rappelle d'un petit déjeuner en favela, où je sais plus, c'était une barre de céréales qu'on m'avait donnée, et tu vois, c'était un événement. Hein, et moi, j'avais beaucoup apprécié passer du temps là-bas. La seule chose, c'est que j'étais accompagnée avec des Brésiliens, et que si jamais j'étais seule, j'aurais jamais pu en sortir. Hein. Je me rappelle, j'étais montée sur le toit là, et j'avais pris une photo. Je me suis dit, bon, s'ils me laissent toute seule, c'est fini, quoi. les Brésiliens avec qui j'étais. Et après... Pour le coup, quand j'y suis retournée, quand j'y ai vécu pendant 6 mois, je vivais avec 3 Brésiliennes dans une coloc. Et là aussi, pareil, du coup, j'ai pas du tout eu le côté expat. Je l'ai pas ressenti, parce que vivre avec des Brésiliennes, connaître leur quotidien, leurs problèmes, ça m'a vraiment donné une autre idée du Brésil, où c'est un peu moins... fantasmé. Et après, du coup, ben non, j'aime toujours autant ce pays. Bon, je n'y retournerai pas forcément y vivre. C'est plus un rêve pour moi de vivre au Brésil, pas du tout. Mais je sais qu'on pourrait passer de très bonnes vacances. Mais la capoeira me permet de garder un lien, parce que j'en pratique. Et que la dernière fois que j'y suis allée, ça fait 2-3 ans. Hein, et ça, c'était la dernière fois, et c'était à Brasilia et à Belém. Mais donc voilà, je pense que j'ai une vision un peu différente, parce que justement, j'ai rencontré des expats et qu'on ne vivait pas du tout dans les mêmes conditions.
Non, mais c'est
vrai. Je suis allée chez eux et je me suis dit, waouh. Non, mais chez moi, ce n'était pas comme ça. Et le pire, je pense... Et ça, c'est une carte, enfin, c'est juste pour montrer la réalité des choses aussi, même si ce n'est pas drôle. Quand j'ai aménagé, donc pas trop loin de l'université de São Paulo, où j'habitais, bah, dans le mois, dans les 2 semaines qui ont suivi, j'arrivais pas à rentrer chez moi en bus. Je sais pas, ils avaient changé les trajets de bus et je comprenais pas pourquoi. Et du coup, le bus m'avait déposé assez loin de chez moi. J'étais complètement perdue. Et le lendemain, j'ai appris que c'est parce que y a une gamine de 14 ans qui s'était fait tuer dans la rue, parce qu'en fait, j'habitais juste à côté d'une favela. Donc ça, à São Paulo, même si j'habitais pas dans la favela, mais les choses sont tellement rapprochées finalement que les zones près de l'université, voilà, c'était pas safe. Et je me suis jamais senti. Enfin, São Paulo, mon expérience là-bas, c'est que c'était assez. J'étais pas rassurée, quoi. Donc, et les Brésiliens avec qui j'étais, ils n'étaient pas forcément rassurés. En tout cas, dans le sens où ils me disaient, faut toujours faire attention, voilà. Et puis, j'emmenais jamais mon ordinateur au boulot non plus. Et ça, c'est quelque chose, il faut prendre le pli. Et je ne dis pas ça pour donner une mauvaise image du tout, mais c'est que c'est la réalité. Et voilà, on s'y fait et puis on peut vivre très bien, mais voilà, c'est quand même une réalité.
Vrai. C'est vrai que c'est de nouvelles habitudes à prendre. Moi, je me souviens, jamais de mon portable. Je prenais jamais mon portable. J'étais à l'époque, je vivais très simplement. C'était, on était à chaque fois en short et en clic-clac. Enfin, comment on dit ça,
en
tongs, pardon. Flip-flap. on était en tongs, on vivait très, très simplement. Effectivement, pas de bijoux, voilà, des choses. On n'attire surtout pas. On a de la chance déjà d'avoir un peu le look qui fait qu'on peut bien s'intégrer. Alors on va essayer de ne pas attirer l'attention. Mais c'est quand même dur de se dire qu'on doit quand même faire attention à ces choses-là. Et c'est là quand même que la liberté qu'on a finalement en Europe, on peut l'apprécier. Mais moi, contrairement à toi, j'aimerais bien revivre au Brésil ou tout au moins avoir la possibilité d'y retourner quelques temps.
Et Fanny, du coup, si tu retournes vivre au Brésil, ça serait dans quelle ville, quelle région ?
Alors, je ne sais pas trop. Bon, maintenant que j'ai des enfants, je pense que sans doute le sud du Brésil, où justement les questions de sécurité sont déjà un peu plus, en tout cas, apaisées. Peut-être Florianopolis, peut-être. Mais je ne connais pas. Et c'est vrai que ce n'est pas le Brésil que je cherchais à connaître auparavant. C'est un Brésil qui apparemment est un peu plus européen. C'est magnifique. Tout le monde en dit du bien. Et c'est apparemment l'une des meilleures zones pour vivre au Brésil. Mais moi, ce que je voulais, c'était connaître le Brésil tel que je l'avais imaginé. Okay. Avec Salvador. C'est le Brésil de la culture noir, les orichas, les choses comme ça en fait. Et c'est vrai que c'est pas trop le sud du Brésil, mais c'est vrai que quand on a une famille, on commence à réfléchir aux choses différemment. Voilà.
Alors, du coup, parlons bouffe. Fanny, quel est le plat qui t'a le plus marqué culinairement parlant, pardon, et surtout la première fois que tu l'as goûté en fait, qui a dit waouh, ce truc là, je n'ai jamais mangé ça et j'aimerais le regoûter encore.
A moqueca. A moqueca da quimoqueca. La moqueca. Parce qu'en fait, c'est très bizarre. Hein. J'adore le Brésil, mais j'aime surtout la langue brésilienne et la danse, la musique. Mais en fait, j'étais pas vraiment fan de la bouffe brésilienne, bizarrement. Et puis, parce que bon, la feijoada d'âme m'impressionnait pas plus que ça. C'est un plat très populaire d'ailleurs. Et j'ai goûté la moqueca. Et j'ai goûté la moqueca, c'était une expérience. Alors, pas n'importe quelle moqueca, tout le monde sait faire une moqueca, c'est assez sympa. Si vous regardez sur Internet, vous réussirez à faire quelque chose qui est bon. Mais si vous allez au Brésil, et si vous allez à Salvador de Bahia, il faut absolument goûter la moqueca de quimoqueca. C'est la meilleure moqueca qui soit. Ils font de tous les styles, il y a plein de choses dedans. Tu l'as goûté d'ailleurs.
Ouais, il y a quoi dedans, justement?
Alors, ce que j'ai fait maintenant. Donc, dans la moqueca.
On va en goûter une tout à l'heure.
Oh. Donc la moqueca, il y a quoi dedans? Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez globalement, et puis il faut savoir aussi qu'en réalité, il y a des moqueca un petit peu partout. Moi, je vous parle de la moqueca de l'État de Bahia et de Salvador, mais en fait, dans tout
le moqueca capixaba.
Voilà. Dans tout, en fait, dans tout le nord-est du Brésil, en fait, il y a plein de moqueca différents. Et celle que moi, j'ai goûtée chez Kimokeka et qui me plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans, en fait? En gros, c'est presque une bouillabaisse. Nous, on l'a goûtée avec des crevettes, mais on peut mettre ce qu'on veut dedans. Avec du lait de coco. Et en fait, le twist, c'est l'huile de dendé, en fait. Et c'est ça, en fait, qui fait que c'est un goût différent. L'huile de dendé, en fait, c'est une huile de palme. Ils l'utilisent énormément dans tout le nord-est du Brésil, à Salvador. Okay. Notamment, je pense que tu as pu le voir, tu as des vendeurs de choses qu'on appelle des acarajés, des vatapá. Et tout ça, en fait, il y a un peu d'huile de dendé dedans. Et on sent, en fait, cette huile de palme qui, moi, me rappelle. Alors, il faut savoir que je suis antillo-guyanaise. Et nous, on a un plat typique chez nous en Guyane, qui est le bouillon d'awara. Et dans le bouillon d'awara, nous, on utilise aussi de l'huile de palme. Et le fruit, en fait, c'est l'awara. Donc, okay. C'est le fruit de ce palmier-là. Donc, ça, c'est pas le même goût que la moqueca, mais c'est toujours à base d'huile de palme. Donc, encore une fois, c'est ce que je disais, on a des rapprochements quand même.
Frédéric, c'est quoi le plat, toi, qui t'a le plus marqué au départ?
Moi, j'aimais beaucoup la feijoada. Pour le coup, avec les haricots et la viande salée. Alors, j'ai un peu bifurqué après parce que j'ai coupé sur ma consommation de viande. Mais à l'époque, j'adorais ça. Et je crois que la meilleure que j'ai mangée, d'ailleurs, c'était chez l'habitant. C'était pas dans le resto et c'était pour un anniversaire. Et... Mais j'en pouvais plus. Enfin, j'ai repris mais tellement de fois. Mais ce que je préfère, en fait, c'est la farofa. Alors, la farofa, c'est la farine de manioc qui est revenue avec des œufs, avec des épices, enfin, de l'ail, etc. Et ils peuvent, des fois, ils mettent des lardons. Alors, ils appellent ça bacon dedans. Et en fait... parce que j'aime beaucoup la farine de manioc en général, mais là, elle a un goût. Et d'ailleurs, elle est de couleur jaune. Parce qu'ils mettent de l'œuf, voilà, donc quand ils font revenir. Et donc ça, c'est... D'ailleurs, au Brésil, on m'appelle Féfé. Et du coup, mais...
C'est pour ça, le Féfé
Non, alors du coup, le Féfé, c'est parce qu'au Brésil, mon nom, Fred, ils ont refusé parce que ça fait trop masculin. Mm-hmm. Et du coup, ma coloc a dit « Ah non, on va t'appeler Féfé. » Et comme j'aimais beaucoup la farofa, on m'appelait Féfé Farofa. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et dans la feijoada, on met la farofa aussi. Et l'autre chose, je pense que c'est les picanhas. La viande, alors encore une fois... Hein, ça
c'est rend... un ancien temps pour toi.
Un ancien temps, voilà. Mais... c'était à la maison, hein, c'était chez moi. Donc, la meilleure viande que j'ai mangée de ma vie, hein, c'était chez moi, à São Paulo. Et c'était un collègue du labo qui était venu et qui est justement du Sud. Et les gens du Sud, au Brésil, ils sont bien connus pour leur bonne viande, enfin la cuisson, la façon dont ils font le barbecue, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais...
Churrasco.
Ouais, la façon dont ils font, en tout cas la façon dont ils le cuisent, le churrasco. Et donc, c'était tellement bon, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as mis dedans? Il m'a dit du sel. J'ai dit, mais je suis con, non, non. Et en fait, là, pareil, j'en avais mangé, mais tellement, et puis aussi avec de la farofa dessus.
Est-ce que tu as essayé de refaire?
Non, mais là, j'habite en Angleterre et j'ai de la farofa pronta dans mon... voilà, dans ma cuisine. Donc, c'est déjà tout fait, c'est en sachet. Après, c'est vrai que la feijoada, je ne me serais pas aventurée dedans parce que ça prend des heures de cuisson. En plus, moi, je ne cuisine pas du tout de viande. J'ai goûté la feijoada vegan quand je suis retournée il y a 2 ans, mais c'est pas...
Interloqué, désolé, feijoada et vegan, pour moi ça va pas.
Ouais, mais en fait, non, on
alors franchement, transfert vers la moqueca, comme ça on sera ok.
Ouais, mais du coup, ça reste pas. Enfin, c'est quand même animal, donc du coup, ouais, bon, on va dire que là, c'est un peu compliqué là au Brésil. Si je retourne, j'aime beaucoup le pão de queijo qui font vraiment bien dans l'état de.
Il y a quoi dedans?
Il y a quoi dedans? Bah, c'est des petites boulettes, mais c'est du pain en fait, hein, avec du fromage fondu dedans, à l'intérieur.
Okay.
Mais ils font cuire le tout ensemble, c'est-à-dire qu'ils mettent le fromage.
Ils mettent le fromage et les petites boulettes dans la pâte à pain et après ils font cuire le pain?
Non, ils mettent le fromage à l'intérieur de la boule de pain.
D'accord.
Et ils font cuire.
Mais en fait, la farine est différente. Hein. La sensation de la farine qui est utilisée, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est exactement quoi.
C'est léger. Hein.
C'est voilà, c'est une sensation de maïzena, sincèrement.
Ok.
Quand
c'est en fait, c'est la farine de manioc, peut-être, non?
Peut-être, ça serait logique.
Qu'en Colombie, ils font de la farine de manioc qui est aussi fine que la farine de froment que nous, on a ici en Europe, pour le coup. C'est une de manioc.
J'aurais pas dit manioc, j'aurais dit autre chose, mais on peut
on pourra checker.
Mais oui.
Je me suis...
Ça, c'est quelque chose que j'aimerais apprendre à faire pour le coup, les pains du queijo, parce que ça me paraît pas trop difficile. Et ça veut juste dire pain au fromage. Pain du queijo ou pain de fromage.
Voilà. Je crois qu'il faut qu'on s'organise ça.
Ah ben voilà.
Ah ouais. Non, ben voilà, rendez-vous pris. Okay,
et le guarana, on a oublié. Parce que moi, enfin, alors pour le coup, le guarana, le guarana en boisson gazéifiée, moi j'ai kiffé mes premières années. Les premières fois où j'ai été au Brésil, bon, c'est vrai que je bois quasiment plus de boissons gazéifiées, mais à l'époque, c'était un plaisir. Quoi.
Ah, si on parle de boissons, justement, ça me fait penser. Ma déception sur le Brésil, c'est la boisson, parce que moi, je suis plutôt jus. Et sincèrement, je pense que tu partages.
Et t'es déçue,
hein. Ah oui, je suis déçue. C'est... Ah ouais, clairement. Parce qu'en fait, d'accord, finalement, quand tu vas sur d'autres régions de l'Amérique du Sud, ou même en Guyane, tout simplement, tu as de vrais jus frais. Tu sens la teneur en fruits, c'est 100%. Alors c'est que là, je sens que c'est un peu l'arnaque, tu sais, le truc où on te met un petit peu d'eau.
C'est
et
la
tout.
Pulpe. Mais tu sais, d'ailleurs, ils la vendent en congelé, comme
fait,
ça.
Les deux, c'est que soit c'est la pulpe congelée, soit c'est de la poudre des fois, ou même quand c'est des fruits frais, ils diluent énormément en fait les jus.
Ils mettent du sucre, trop de sucre aussi. Trop de sucre.
Moi je trouve à mon compte quand même. Bah pour les jus, mais après et le jus de, comment on appelle ça encore, le fruit avec la chair blanche,
Courrosol.
Voilà, ça c'était c'était bon, mais on n'a pas parlé de caipi.
Parlons de caipi. Alors, où est-ce que vous avez bu la plus bonne caipi au Brésil?
Alors franchement, c'est juste hors du Brésil que les gens savent pas faire la caipi. C'est ça qui est effarant. Mais ouais, c'est
une caipi qui était bonne. Et pour le coup, moi j'aime beaucoup la caipi maracuja. Et ça, c'est ma coloc qui me la faisait. Mais en vrai, ce qui était sympa, parce que du coup, ma coloc capixaba qui faisait la moqueca capixaba et qui me laissait toujours un petit tupper de bouffe à côté. Enfin, elle cuisinait et puis elle me faisait un petit truc pour Fefe, tu vois. Et elle adorait les diminutifs. Comme au Brésil, on dit souvent igne ou igne à la fin. Donc, pour me dire qu'elle a fait à manger, feijãozinho ou arrozinho, pour dire petit haricot, petit riz. Enfin, bon, ça ne le fait pas en français, mais c'est l'idée. Et pareil, c'est elle qui elle faisait des caipima à coup de jam, mais
alors je sais pas si vous savez, mais à la base je bois pas spécialement d'alcool. Je suis pas alcool du tout. Mais par contre, je fais des exceptions. La caipi, en est-il? Alors là, allez-y, envoyez la caipi, il n'y a pas de problème. C'est le truc, vraiment, je n'ai pas de problème. Et comme toi, moi, c'est caipi maracuja. La caipi, les meilleures caipi, peut-être, si on doit comparer, mais en même temps, elles sont toutes bonnes, c'est les caipi simples, hein, sur la plage, fait par le mec qui passe là, comme ça, il te fait la caipi vite fait devant toi. Déjà, le truc est super simple. Ça te coûte pas cher. Et c'est là que tu vois qu'on t'a un nac en Europe quand tu l'achètes, donc tu ne l'achètes pas en Europe. Voilà.
Mais... soit la caipi, soit les jus de fruits, tout ça, ouais. En fait, on a aussi potentiellement aux Antilles, on peut faire pareil, en fait. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce plaisir d'avoir un jus frais au bord de la plage, compagnie.
Non, mais nous, on est un petit peu plus prof, peut-être. On veut le rhum, tu mets juste ton punch. Voilà, on n'est pas dans le truc suave, le petit jus, machin.
Mais ça pourrait se faire, parce que quand regardes, on a déjà l'eau de coco et le jus de canne. Donc ça se peut de se démocratiser en bord de rouge, hein.
Tu veux une nouvelle idée?
On fait un business parce que du coup, on monte ça là.
On a tous les fruits qu'il faut en tout cas pour cela. Alors, combien de temps en fait t'as passé, Fred, au Brésil au total?
Au total?
Ouais.
Je sais pas, un peu moins d'un an.
Ok. Fafa, toi?
Ouais, un tout petit peu plus qu'un an.
Plus d'un an? Aujourd'hui.
Mais en 4 fois pour moi donc.
Ah, morcelé.
Morcelé. Ouais,
qu'est-ce? Quel élément, chacune, l'une de vous, avez-vous introduit, enfin du Brésil, dans votre quotidien? Que ce soit au niveau culinaire, au niveau de la culture, au niveau de la pratique sportive, de n'importe quoi.
Alors moi, en fait, avant d'aller au Brésil, je faisais de mon quotidien un quotidien brésilien, justement, pour pouvoir facilement m'intégrer. Donc en fait, en partageant ma vie avec des enfants et un compagnon, j'ai commencé à, au contraire, prendre un peu de recul pour ne pas trop en faire, hein, pour eux, parce que c'était un peu, ça peut être un peu invasif, hein, ça. Parce que moi, c'était, avant même d'aller au Brésil, c'était, je me couche avec de la samba, je me réveille, j'écoute CBN, la radio brésilienne, je prenais des cours de culture brésilienne, j'allais dans des forums qui parlaient du Brésil, donc le Brésil c'était tout le temps. Donc là au contraire, j'ai un petit peu édulcoré ça, pour que ça soit supportable pour ceux qui n'aiment pas autant le Brésil que moi. Mais alors donc après le séjour au Brésil, je dirais déjà j'ai découvert la moqueca. Et donc c'est quelque chose maintenant qui fait partie, quand on veut faire un bon plat, avant c'était le petit colombo ou voilà, je sais pas, c'est vrai que je suis quand même antillaise, mais bon, maintenant c'est la moqueca, c'est les bolinhos de bacalhau, parce que maintenant je fais plus, désolé hein, je sais, les acras de morue, tout le monde aime ça, mais moi je fais plus d'acras de morue, je préfère le bolinhos de bacalhau parce que je trouve ça moins gras. Et puis bien concentré en morue, tout ça, je trouve ça super bon. Donc voilà, culinairement, voilà ce que j'ai introduit. Et puis, c'est vrai que mon idée, c'est quand même, j'ai ma fille qui est née au Brésil, elle est brésilienne, hein, avant tout, donc j'aimerais perpétuer ça, et j'aurais voulu qu'elle continue, qu'elle parle portugais plus tard, donc au fur et à mesure, on a un petit peu de portugais qui se réintroduit.
Tu lui parles un petit peu portugais ?
Ben, en fait, elle est... quand elle est née, je lui parlais portugais puisqu'on vivait au Brésil. Après, bon, on a déménagé, hein, on voyage un peu. Et l'anglais a pris le pas sur le portugais et maintenant, c'est français et anglais. Mais effectivement, le but, là, maintenant, à un âge certain, je pense que je peux réintroduire une troisième langue. Donc, ça serait effectivement qu'elle puisse parler portugais. Et puis, pour nous, en fait, la musique, par contre, a toujours été la musique du Brésil. Donc, moi, je suis big fan. Et elle a grandi avec ça. Et ça, c'est quelque chose qui reste. Et puis, je pense que j'ai fait passer aussi la passion
du Brésil. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, elle te demande justement des fois des petits morceaux de son brésilien à mettre à la maison
Ben oui, en fait, elle avait sa musique juste, par exemple, pour se coucher, elle avait une musique particulière. Pour la douche, elle avait une musique particulière. Et en fait, moi, je leur chante une musique particulière que tu as passée tout à l'heure, d'ailleurs, quand elle pleure. Quand elle pleure, c'est un chant brésilien qui est tout doux que je leur chante. Voilà.
Ça s'appelle comment ?
Alors, c'est Ella guarda da portella, c'est le Volta.
Okay.
Je pense que c'est Volta.
Alors, Volta, effectivement, on l'avait dans la playlist tout à l'heure. Je vais la retrouver. Pendant ce temps, Fred, qu'est-ce que toi, tu as gardé en fait, dans ton quotidien par rapport au Brésil ?
Pour moi, c'est plus la capoeira. Parce que forcément, aujourd'hui, je vis en Angleterre. Je pratique dans un groupe de capoeira, Capoeira Sanzala, qui est une grande école mondialement reconnu parce qu'il y a plusieurs petites écoles justement dans les différents pays et j'ai pas mal voyagé et c'est vrai que j'ai commencé la capoeira après avoir été au Brésil deux fois et même si je suis pas non plus je suis pas une championne et je suis pas hyper forte mais pour moi c'est plus un mode de vie aussi la capoeira c'est allier le corps et l'esprit et ouais du coup ça me permet aussi de garder le contact avec des Brésiliens de parler portugais donc ça c'est la plus grande partie je pense c'est la capoeira et puis la deuxième en fond ce serait clairement la musique parce que j'écoute aussi et que ça, de temps en temps en chantant ben, ça me permet de pratiquer le portugais aussi.
Ok. Raconte-moi, Fred, le plus bel endroit que tu aies vu au Brésil. Raconte-moi comment tu y es arrivé et ce que tu as ressenti quand tu as vu cette chose qui peut être, je ne sais pas ce que c'est, tu vas me dire.
Faut que ça soit une chose, que ce soit un paysage, que ce soit quelqu'un.
Ce que tu veux, ça peut être quelqu'un aussi, c'est toi qui vois.
Ok, je pense que ce serait du coup... Durant mon dernier voyage, c'est difficile. Alors, du coup, je pense que je vais utiliser mon dernier voyage comme point de repère parce que c'était il y a juste 3 ans et que du coup, je m'en rappelle plus. Et c'était pas loin de Rio de Janeiro, donc peut-être à 1 heure de Rio. Donc moi, ce que je préfère, c'est voir les couchers de soleil et les levées de soleil. Donc là, c'était un coucher de soleil et c'était donc au sud de Rio, sur un petit morne, mais qui donne. Enfin, c'est un rocher en fait. Et de là, on pouvait admirer donc, une partie de la baie de Rio de Janeiro, mais pas de la ville Rio de Janeiro, mais de l'État, puisque la ville et l'État ont le même nom. Et on pouvait aussi admirer les mangroves. Et c'était un coucher de soleil, le truc magique. Intimique, et du coup, ouais, voilà, j'étais toute seule là-bas avec, avec un guide super sympa que je peux recommander. Pedro, il s'appelle. Voilà. Je suis en train d'essayer de me rappeler. On a un numéro. On a un Instagram surtout.
Fafa, c'était quoi pour toi le plus beau souvenir en termes de découverte de paysages qui t'en a mis plein la vue?
Je sais pas que toi aussi, c'est ce qui t'a mis plein la vie quand t'as découvert l'état de Bahia. Pour moi, c'est la Chapada Diamantina.
Diamantina, ouais. Oh, c'était magnifique.
Magnifique, magique. Bah, toi, je pense que tu peux nous en parler encore plus. Donc, si on peut t'interroger aussi, dis-nous.
Alors, je vais vous raconter mon petit périple dans la Chapada Diamantina, sous les conseils de Fafa. J'ai été, c'est à peu près 5 heures de route de Salvador en bus. Donc déjà, je prends le bus tout seul, donc expérience assez intéressante parce que moi, je ne parle pas portugais. Je ne comprends rien du tout à cette langue. Vraiment,
et puis, ce n'est pas comme s'il parlait anglais. Donc,
voilà, c'était très particulier. Donc, mais on s'est compris avec les gens. Voilà, comme on est en voyage, on fait des gestes, on fait des regards, on regarde, on suit les gens. Et c'est un peu l'intelligence sociale qui permet d'avancer, de découvrir des choses. Et donc, j'ai pris un guide pendant plusieurs jours. Et j'ai fait un trek de, je crois, 12 heures au total. Pour monter voir, donc c'est Fumaca, c'est ça? Top of Fumaca.
Fumaça.
C'est une chute qui a plus de 300 mètres de haut. C'est la troisième plus haute chute du Brésil. Et juste des paysages, mais magnifiques, magnifiques. Nous, en tant que Caribéens et insulaires, en tout cas pour le coup, on a souvent, enfin, quand on va en montagne, on voit la mer. On a cette, ce que l'on voit tout le temps la mer. Et là, ça fait bizarre de voir à perte de vue, en fait, que de la nature, des arbres et tout, c'est juste fascinant. Et de voir en fait aussi cette terre qui est une terre qui est très primaire par rapport à l'âge de la terre pour le coup, en fait, c'était parmi les premières terres qui sont formées. Et en fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique tous ces paysages de l'eau, mais de fou,
toutes
les couleurs, des pierres rouges, des pierres bleues, c'est juste incroyable.
Non, je pense que tu as eu de la chance, effectivement, de te prendre un guide perso pour faire tout ça. La Chapada est immense, c'est une réserve naturelle. Et il y a plusieurs endroits où aller. Je pense que tu as été à Lençóis. Alors, moi, j'ai dit Lençóis. Certains disent Lençóis. Ça, c'est pour certains qui... Hein, c'est une petite histoire perso. je pense que moi, ce que j'ai aimé quand j'y ai été, c'est aussi l'ambiance, en fait, dans la ville de Lençóis. Je me souviens... en fait, on était juste tous les deux et on a rencontré d'autres personnes et on s'est joint à une table et on a commencé à faire le lien très rapidement. Et je suis sûre que même si toi, peut-être, t'es peut-être parti tout seul, je suis sûre que sans doute là-bas, tu as rencontré du monde et ils t'ont invité à leur table. En fait, c'est le côté super convivial en général.
Et petit village, en fait, en réalité.
Ouais, petit village. Moi, franchement, j'ai adoré et il y a plein de choses. En fait, moi, c'est ce que j'aime avec en fait, l'état de Bahia, parce que c'est vrai que Salvador, en fait, c'est une grosse ville, grosse métropole. C'est pas sexy en réalité, hein. Mais quand tu vas dans l'état de Bahia et que tu prends le temps de découvrir, toi, tu as vu des super dunes. Tu t'es pas perdu d'ailleurs ?
Je me suis perdu dans un petit désert au nord de Salvador.
Voilà.
J'ai failli ne pas rentrer.
Bon, t'avais le GPS quand même.
Ouais, mais en fait, alors, il y avait le GPS. Le problème, c'est que j'étais vraiment dans une espèce de désert de sel, en fait. Et donc, t'as beau avoir le GPS. Tu sais en quel point qu'il faut aller, mais sauf qu'en fait tout est blanc et puis surtout il y a des moments où tu ne passes plus, en fait il y a des arbres, il faut faire le tour, donc j'ai pris une bonne heure en fait à retrouver mon chemin et, et j'avais rentré chez toi pour le coup après.
Non parce que c'est magnifique en fait. Moi il y a plein de choses que j'ai pas vu, hein, pourtant je suis assez plus d'un an. Il y a des vignes, il y a des dauphins, il y a des zones où tu peux faire du surf. Ilhéus, je ne sais pas si tu allais un peu plus dans le sud. En fait, l'état, si vous allez à Salvador, ou pas à Salvador, si vous allez dans le nord-est du Brésil et que vous voulez visiter un état, je pense que l'état de Bahia a toutes les richesses qu'on peut avoir en fait en image du Brésil. En fait, tout est concentré, j'ai l'impression, moi, sur Bahia, culinairement, les gens aussi, le côté aimable, convivial, le côté on n'a pas besoin de grand-chose et puis finalement, on a l'air d'être heureux, le côté paysage magnifique est très, très différent. En gros, voilà, c'est là qu'il faut aller.
C'est à Bahia. Donc, allez à Bahia. Ça, c'est le message de Fafa. Allez à Bahia.
Bahia. Je crois que l'office du tourisme devrait me verser un petit peu.
C'est ça. Hein.
Alors, est-ce que vous pouvez... là, on arrive un petit peu à la conclusion de l'épisode. Eh ouais, c'est passé très, très, très vite. Nous raconter une anecdote marquante que vous avez vécue là-bas.
Moi, j'aime beaucoup la musique qui passe en ce moment.
Ah, allez, musique. Qu'est-ce qu'elle raconte, la musique ?
En fait, j'aime beaucoup ça. C'est Boucher Chat, c'est ça ?
Je connais pas cette musique-là.
Je peux voir. Mais en fait, c'est parce que c'est un mix de trois morceaux. Mais c'est une histoire d'amour.
Qu'est-ce qu'elle dit ?
Ça dit « Je t'aime et je veux tellement que tu sois là. Et je veux ton corps. Et... pas d'hypocrisie, voilà.
Ok.
Très charnel, hein, parce que je...
Du coup, alors, l'anecdote.
Oui. Alors, du coup, l'anecdote sur... Désolée.
Ce qui t'a marqué là-bas.
Tu m'as manqué. Ce qui m'a manqué... Au final, ça revient toujours à la même histoire, c'est la connexion avec la danse, certaines soirées. Parce que... ouais, je sais pas... Non. En fait, c'est juste que voilà, on vit, et comme je le disais, la plus longue période que j'ai faite là-bas d'une traite, c'était 6 mois, où j'étais étudiante, voilà, en master 2, et du coup, bon, ben, j'étais comme... fallait quand même que j'aille en cours, enfin pas en cours, mais que j'aille au labo, etc. Je pense que ce qui m'a marqué, c'est les moments de pause, et c'est ces moments où voilà, on se retrouvait, on était entre amis, et on pouvait s'exprimer autrement, et vu que la danse, c'est ce que je préfère, voilà, hein, donc c'était par la danse, que ce soit... un peu de samba, un peu de froro, un peu de baile funky. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Il faut nous envoyer les images de baile funky, parce que là,
ouais, parce que je pense que c'est un petit dossier qu'on aimerait beaucoup, beaucoup vous voir.
Donc
ici.
Voilà, non, c'est la danse qui me manque toujours, je pense, dans chaque voyage.
Ok, merci Frédéric. Fafa, qu'est-ce que tu peux nous dire, une anecdote qui t'a marqué du Brésil que tu n'as pas encore partagé avec nous?
C'est quand Fred est en train de parler, j'étais en train de réfléchir. Parce que je pensais aussi à la musique. Parce que pour moi, Salvador, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup de chanteurs en fait, de Salvador que j'aime bien. D'ailleurs, sur la playlist que j'ai partagée, il y a beaucoup de chanteurs de Salvador.
Alors, je mettrai les sons dans la description du podcast, pour ceux qui veulent.
Voilà, pour moi, peut-être la musique aussi, parce qu'en fait, c'est un moment déterminant qui a fait, bizarrement, qu'on a voulu retourner à Salvador, et bizarrement, quand on y a vécu, on n'y est pas allé. À Salvador, le mardi, il y a ce qu'on appelle la Terça da Benção. Terça, ça veut dire mardi, donc le mardi de la bénédiction.
Okay.
Terça da Benção. Et ça se déroule sur la place principale de Salvador.
J'avais mon hôtel, il me semble.
Voilà, où voilà, tu avais ton hôtel. Là, je ne sais pas, là, ça me revient. Je ne me rappelle plus, là, maintenant, quand on parle. Mais alors, ça se déroule là, et en fait, c'est en toute simplicité. Vous avez une petite scène et des gens en train de jouer de la musique. Alors, que ça soit. Alors, ce n'est pas baile funk, c'est plutôt du style samba. Hein,
Plaza d'Assé.
Ah, Plaza d'Assé. Voilà, c'est ça. Donc, sur la Plaza d'Assé, on avait finalement des gens qui jouaient de la samba, et je me suis mise à jouer de la samba. Et puis, en fait, pour un rien, on a payé un petit... on a acheté un petit truc à manger, fort bon, c'était juste de la viande, mais comme toi, avec la picanha, c'était « Waouh, mais c'est quoi ce truc ?» La picanha avec le farofos qui était extraordinaire, c'était super simple. Voilà, tu vois, voilà la vie simple qu'on veut. Ces trucs d'aller au boulot, parce qu'en fait, c'était des vacances. Hein, on, à l'époque, on était à Paris, on s'est dit « Fini ». Donc sur ça, on s'est dit « Ouais, non, on va revenir, c'est ce qu'on veut. Une vie simple, musique, tranquille, avec nos flip-flaps, machin. » Donc peut-être ça, et puis parce que en fait c'est vrai que peut-être les premières choses que j'ai faites quand je suis arrivée pour y vivre cette fois-ci, en un mois et demi, j'ai fait des concerts et j'ai eu la chance de voir Ivete Sangalo nous faire un petit carnaval. En fait, il faut savoir que
énorme artiste
Ivete du carnaval. Ivete, exactement. Donc Ivete, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle nous a fait un carnaval, en gros privé. C'était en quoi? Je suis partie en avril. Donc, c'est un carnaval hors saison. Hein. Avril-mai, elle nous fait un carnaval. Et je peux vous dire que les rues principales de Salvador...
On l'entend
bondé.
Là. Ah ben voilà. Au país tropical. Ouais.
Et ben, voilà. Après, carnaval, hors période de carnaval. Et c'était le feu. Alors, j'ai vu Ivete en vrai. Ah, voilà Ivete!
Bonjour! Au pays tropical!
Voilà, parce que c'est l'artiste de carnaval finalement de Salvador. Donc voilà, j'ai la chance de voir ça et puis la chance de voir aussi, si vous connaissez, peut-être vous connaissez cette musique, Vanessa D'Amata. Cette chanteuse en fait a fait des featuring avec Ben Harper. Mm-hmm. Et donc généralement ça c'est assez connu. Et j'ai eu la chance encore une fois d'aller la voir aussi en concert. Donc voilà, la musique a marqué le début de ma vie au Brésil. Oui. Et en fait c'est aussi peut-être l'une des raisons pour lesquelles on est congédié.
Alors c'est marrant finalement que toutes les deux vous finissez par une anecdote sur la musique et la danse. Moi, je me rappelle, je l'avais dit, quand je suis arrivé au Brésil, je suis arrivé à Salvador, j'ai pris mon hôtel et compagnie, et tout de suite, j'ai été mis dans l'ambiance de cette ville par la musique. C'était un mardi soir aussi, il me semble, et il y avait de la musique partout, dans tous les bars, dans tous les restaurants, des gens dehors, sur la fameuse place aussi. Et sur cette place-là, toute la nuit, alors ça peut être pénible pour ceux qui vivent à côté, toute la nuit, en fait, il y a de la musique, il y a des chanteurs, toute la nuit. Et c'est vraiment formidable. Encore une fois, pour ceux qui aiment la vie, qui aiment que ça bouge et qui aiment la musique, en fait, pour moi, Salvador, c'est vraiment ça, en fait, aussi.
Exactement. Bon, je bois pas, hein, mais ta petite bière, les gens se contentent de peu. Petite bière, acarajé, c'est bon, la samba et on est bon. T'as pas besoin de plus.
Super. Ben, écoutez, on arrive au bout de l'épisode. J'ai été très content de partager ce moment avec toutes les deux, vous toutes les deux.
Ben, aussi.
Et merci beaucoup encore de votre présence. Il y a très bien, en tout cas. Si vous voulez suivre Fred pour son asso, je laisse vous donner les coordonnées.
Roots of the Sea sur Instagram, Facebook, Twitter.
Voilà, donc c'est une asso qui fait quoi encore, Fred ?
Qui œuvre pour la protection et la valorisation du patrimoine martiniquais, environnemental et culturel.
Super, et je vous laisse en musique. À bientôt.
Obrigada. Ciao.
Ciao.
D'avoir écouté l'intégralité de notre podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et encore partager. Mettez-nous 5 étoiles sur vos plateformes préférées pour qu'on puisse continuer à gagner en visibilité. Si vous n'avez pas apprécié, partagez-le quand même. Et surtout, faites-nous des feedbacks en DM sur Instagram. Si vous avez des besoins ou des questions liées au e-commerce ou au digital, n'hésitez pas à nous contacter sur hello@idiosa.com. Rejoignez notre communauté sur Facebook, Twitter ou Instagram. Merci encore de me suivre et à très vite.